Alors, il m'appartient de conclure provisoirement ce travail, cette journée. Auparavant, je vais me plier au même exercice que tous ceux qui m'ont précédé ici, c'est-à-dire dire quelle était mon expérience. J'ai travaillé 31 ans à Nanterre, commune populaire, où j'ai été recruté comme suppléant éventuel pour un emploi occasionnel. C'est une époque où il y avait déjà des précaires, et j'ai travaillé plusieurs années en circuit de 5e de transition, de 6e, de 5e, qui était hors collège et qui n'accueillait que des enfants des cités de transit qui arrivaient en classe de transition sans faire de classe de CM2, avaient déjà 2 ou 3 ans de retard. Mais c'était l'école républicaine de l'égalité des chances, hein, on avait compris. J'ai travaillé en SECPA également, en SES à l'époque. En école élémentaire, j'ai été 5 ans coordonnateur de la CEP du chemin de l'île à Nanterre à sa création. Et j'ai animé le groupe des coordonnateurs des Hauts-de-Seine, 6 ans directeur de l'école Voltaire, l'école en CEP, 20 classes, où nous avons mis en place la politique des cycles, et où moi, tous les jours, je prenais le groupe d'élèves dans le cadre de la politique des cycles. Et enfin, pendant 6 ans, secrétaire national d'une organisation syndicale, j'ai fait la responsabilité de la politique éducative, et donc j'ai défendu le dossier éducation prioritaire auprès d'un certain nombre de personnages. J'ai entendu parler, Luc Ferry, M. Darcos, Nicolas Sarkozy, Jean-Pierre Raffarin, etc. J'en passais les meilleurs. Ça n'a pas été toujours très simple. Alors, l'intitulé de cette journée que nous vous proposions, c'était donc 40 ans d'éducation prioritaire et après, c'est-à-dire de, dans notre réflexion collective, à la fois de mener un regard sur l'histoire de l'éducation prioritaire, mais également d'en mesurer les effets dans le cadre de la refondation, les échecs, les difficultés, les enjeux, pour dégager des perspectives. Un point qui a été très peu abordé, je commencerai par celui-ci. Moi, je suis frappé, mais c'est peut-être un peu ma fonction de porte-parole de l'Observatoire, et qui est celui très souvent en rapport avec les médias, c'est de voir à quel point la pensée médiatique dominante, mais aussi certains ou certaines universitaires qui dénoncent systématiquement l'éducation prioritaire sans la connaître, mettent en question l'éducation prioritaire, la mettent à la question, la soumettent à la question, cette éducation prioritaire, en la jugeant figée, trop onéreuse, improductive, voire même un obstacle à la mixité sociale. Voire encore plus fort, on l'a constaté il y a quelques années, dans un message rapide du Monde.fr où j'ai demandé la suppression, je l'ai obtenu, l'éducation prioritaire crée des inégalités sociales. Donc on voit où la pensée médiatique dominante va. Les médias, mis à part nos amis de Tout Édu, du Café Pédagogique et l'AF, ne travaillent pas sur ce dossier. Ne travaillent pas. Alors, ça s'interroge quand même. Trop onéreux, c'est rectifié très rapidement. Le surcoût de l'éducation prioritaire pour 20% des élèves doit être mis en comparaison avec le surcoût des classes préparatoires aux grandes écoles, qui concerne beaucoup moins d'élèves, il a mis lieu complètement différent, donc la question est réglée. On reviendra sur inefficace, figé, etc. À la réflexion de ce que nous avons mené depuis ce matin, on peut penser que l'efficacité des politiques publiques qui sont engagées tient beaucoup aux articulations fortes et pertinentes qui sont construites entre les orientations décidées par ceux qui sont élus, les travaux de la recherche, mais aussi la prise en compte de l'expérience des équipes de terrain. Il faut donc manier cet équilibre entre les trois. C'était une utopie, mais c'est une utopie que nous portons, et c'est une utopie qui va au-delà de l'éducation prioritaire, c'est une utopie de politique publique. Et c'est à l'aune de cette utopie qu'on peut mesurer, avoir un regard critique sur ces 40 ans d'éducation prioritaire. Car si on revient sur ce qui nous a été dit ce matin sur la table ronde de l'histoire, la politique engagée par Alain Savary, qui n'était pas le produit de réflexion universitaire, était une politique de rupture avec l'idéologie dominante En gros, l'école libératrice, la distribution égalitaire des moyens, l'égalité des chances, entre guillemets, alors qu'on savait pertinemment que les enfants ne sont pas tous à égalité sur les lignes de départ de la compétition scolaire, qu'ils sont avec leurs compétences, leurs codes culturels et sociaux, et leur maîtrise ou non, leur éloignement ou non avec les codes de l'école et la culture scolaire. Et que c'est cette prise en compte par Alain Savary, cette volonté de rupture, qui donnait lieu à une politique fondée sur non pas l'égalité des chances, mais l'égalité des droits et la prise en compte des inégalités sociales et scolaires. Cette conception, voici ce que je partage, elle est aux antipodes d'une conception misérabiliste, donner plus à ceux qui ont moins, ou une conception, je dirais, darwinienne, socialement, où on favorise la promotion de quelques-uns au détriment de la rééducation de la plupart. Cette politique repose sur quatre principes. Le premier, c'est une politique territoriale. C'est important à se souvenir, car dans l'histoire de l'éducation prioritaire, il y a eu des glissements, non pas débattus politiquement avec les acteurs, mais des glissements insidieux, une politique territoriale à une politique centrée sur les établissements, puis à une politique centrée sur les établissements, à une politique centrée sur les individus. Jean-Claude Aymard a fait des textes sur cette question qui sont très très pertinents. Or, ces trois conceptions sont toujours mêlées aujourd'hui. Une politique territoriale, si je veux dire qu'une politique dont qui associe l'ensemble des acteurs sur un territoire donné, des acteurs qui ont une responsabilité éducative auprès de l'ensemble des élèves et des jeunes. Deuxièmement, c'est une politique interdegré. Et ça, en 1980, c'était une révolution. Une politique interdegré qu'il nous faudra de nouveau interroger. Troisièmement, c'est une politique de projet. C'est bien en éducation prioritaire qu'on est initié cette politique de projet. On a vu au fil de l'histoire que projet n'équivalait pas à collection d'actions. Donc il faut définir qu'est-ce que c'est que le projet et qu'est-ce qu'il vise. Et enfin, quatrièmement, c'est une politique partenariale. Donc politique territoriale, politique interdegré, politique de projet, politique partenariale. Et ces quatre principes qui auraient mérité d'être interrogés tout au long de ces 40 années pour vérifier s'ils s'accordent toujours avec la réalité et si les pratiques engagées par les équipes et si les décisions politiques sont en accord avec ces quatre principes. Ça a été très rarement fait. Ça a été très rarement fait. Le retour aussi nécessaire sur ces 40 années met en évidence une chose. Et ça a été dit par beaucoup d'entre vous dans l'ensemble des tableaux. C'est qu'à partir du moment où on est engagé dans une politique publique, celle-ci nécessite d'accorder d'abord un temps long. Le temps long de l'information, le temps long de la formation des acteurs, le temps long, et Sylvie Seb l'a bien dit, de la co-construction d'outils didactiques et pédagogiques, le temps long de la construction d'actions d'enseignement, le temps long de modification des pratiques professionnelles, le temps long de la concertation, de la constitution d'équipes, le temps long de la construction d'évaluations régulatrices, et on recommence. Or, en 40 ans, quand l'éducation prioritaire a-t-elle bénéficié de ce temps long? Très peu de temps. On l'a bien vu dans le rappel historique, la succession des ministres n'a pas permis, vu que le fonctionnement culturel en France est ainsi, n'a pas permis de mettre en place ce temps long. C'était rappelé ce matin, après le départ d'Alain Savary, Jean-Pierre Chevènement ne partageait pas ces orientations. Après le départ de Lionel Jospin, Jacques Lang ne partageait pas ces orientations. Après le départ de Gilles de Robien, Luc Châtel ne partageait pas ces orientations, et la période récente est extrêmement éclairante là-dessus. Deuxièmement, toujours sur cette discontinuité du pilotage, s'accompagne d'un escamotage de l'évaluation de cette politique. On a quand même, à trois reprises et des exemples extrêmement éclairants. En 1990, à la première relance Jospin, les ZEP nouvelles, celles qui ont été construites en articulation avec la politique de la ville, de faire des projets de zone pour 3 ans. Le message a été très clair. Moi, j'ai été nommé en 1990 coordonnateur à Nanterre. Le recteur de l'Académie de Versailles nous a réunis avec un discours qu'on n'entend plus. Hein, discours « Les personnels de l'éducation prioritaire sont l'élite de l'éducation nationale. Les coordonnateurs sont l'élite de l'élite. » Bon, passons. Première année, vous faites le projet de zone. Deuxième année, vous faites le projet éducatif local. Troisième année, vous faites l'évaluation et vous avez carte blanche. Alors ça, dans la culture blanquerienne, c'est exclu. Hein. Si vous avez carte blanche. Or, il n'y a jamais eu cette évaluation des projets de 1990 à 1993. Deuxième exemple, 2007-2010, réseau mission réussite, Marc l'a rappelé encore, les projets des réseaux en mission réussite devaient être évalués. Il y a eu une évaluation à la DGESCO, le CP, je me souviens, j'ai rencontré la responsable de ce sujet. Elle indiquait notamment, alors ce qui a été dit ce matin, mais aussi que la principale difficulté de l'éducation prioritaire était dans une carence de pilotage des recteurs. Alors ça, c'était sans doute quelque chose qu'il ne fallait pas dire. En tout cas, donc, quand nous avons rencontré ensuite Luc Châtel et son directeur de cabinet, Jean-Michel Blanquer, ils ont dit que ça ne les intéressait absolument pas. Et donc, deuxième évaluation dont on n'a pas tenu compte. Et la troisième est encore plus proche de nous, Marc l'a rappelé, c'est-à-dire que la circulaire de 2014 précisait bien qu'en 2019, soit 5 ans après, l'ensemble des projets des réseaux, mais aussi la géographie prioritaire, devait être évalué. En avril 2018, nous avons rencontré, non pas le chef suprême, il n'était pas rencontrable, mais le cabinet du ministre, qui a reconnu tout à fait le bien fondé de cette demande, mais qui n'a pas donné suite. Donc on est quand même à chaque fois devant des politiques ministérielles, 3 reprises, prioritaires, qui sont engagées, qui ne sont pas évaluées, qui sont délaissées, abandonnées, rejetées, mais de façon insidieuse, sans qu'il y ait un débat, pas un débat à l'Assemblée, mais un débat aussi avec les acteurs. Il faudrait aussi s'interroger, enfin, sur la façon dont des rapports fondateurs sur l'éducation prioritaire, fondamentaux comme les rapports Moisan-Simon ou Armand-Gilles, ont été pris en compte par les ministères. Et pourtant, quoi qu'en disent quand même les détracteurs, l'éducation prioritaire a bougé. L'éducation prioritaire a bougé. 1990, avec l'articulation entre l'éducation prioritaire et la toute nouvelle politique de la ville, avec les projets, donc projets de zone, avec la création des coordonnateurs, là tout à fait officiellement, avec des textes sur les coordonnateurs d'éducation prioritaire. On a vu aussi en 2007 la création d'un dispositif à 2 niveaux, réseau mission réussite, cœur du dispositif réseau de réussite scolaire, avec là aussi la création d'autres postes spécifiques, les enseignants référents. Les enseignants référents qui étaient attribués à chaque réseau ambitieux en réussite, premier, second degré, pour améliorer les liaisons et les apprentissages entre l'école et le collège. Et nous avons rencontré à l'OZP un certain nombre de collègues du second degré qui nous disaient « on n'est pas des militants pédagogiques, mais ça, ça nous intéresse, ça nous permet de mieux penser la question de la continuité des apprentissages et du traitement des difficultés avec nos collègues du premier degré. » Et bien entendu, il nous disait souvent, l'obstacle qu'on rencontre, c'est avec les collègues de notre propre discipline, parce qu'on remet en question notre image professionnelle. Enfin, plus près de nous, effectivement, le mouvement important qui a été créé, je le répète souvent, dans le cadre de la refondation de l'école, la refondation de l'éducation prioritaire. L'éducation prioritaire n'est pas un continent à part, elle fait partie de la refondation de l'école, avec le travail sur la carte qui a été mentionné, avec les outils fournis par le ministère, notamment le référentiel, pour aider les équipes à construire leur projet, et non pas comme le bréviaire qui descend directement du ministère, avec aussi la création des formateurs et plus, et la question de la pondération en réponse qui méritera d'être examinée de plus près. Depuis 2017, on assiste à autre chose. Il y a toujours de l'éducation prioritaire, mais ce n'est plus la même éducation prioritaire. L'orientation qui a été donnée, qui ne prend pas en compte donc ce qui a été engagé précédemment, réduit l'éducation prioritaire à la seule question des dédoublements des classes en CP-CE1. C'est un engagement donc du candidat Macron à l'élection présidentielle. Quand nous avions organisé une réunion avec les représentants des candidats, la sénatrice Marisa Carré avait clairement dit « Ah ben oui, pour nous l'éducation prioritaire, c'est le dédoublement des classes de CP. » Point. Et ça n'était pas allé plus loin. Ce qui a des conséquences immédiates, c'est-à-dire qu'en est-il de la question de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, qui est une question qui a suivi un parcours sinusoïdal tout au long de ces 30 dernières années. Qu'en est-il de la politique des cycles à l'intérieur de l'école? Qu'en est-il de l'articulation entre le premier et le second degré? J'en passe. Aujourd'hui, force est de reconnaître que si on suit la note de l'ADEP qui a été publiée fin septembre, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Ce qui n'est pas tout à fait l'expression du Conseil supérieur de l'éducation nationale. Les résultats ne sont pas au rendez-vous compte tenu des moyens qui ont été engagés. Alors nous avons une secrétaire d'État à l'éducation prioritaire. Grande première, on a salué cette création, le ZP, et nous avons rencontré, je crois qu'on était parmi les premiers interlocuteurs à rencontrer, Nathalie Limas. Nous lui avons remis en octobre 2020. Nous lui avons remis notre recueil d'analyse, de travaux d'analyse sur les effets de la refondation. Et il nous a dit qu'elle prendrait plusieurs mois pour rencontrer les uns les autres. Et puis un mois après, elle a annoncé que, à la rentrée 2022, les REP seraient remis en cause et qu'on irait vers un autre dispositif, les contrats locaux d'accompagnement, qui seraient expérimentés dans 3 académies, Nice, Lille, Nantes. En octobre dernier, Nathalie Elimas, et je reprends une dépêche de Tout Éduc, la secrétaire d'État à l'éducation prioritaire, déclarait que l'action ministérielle ne se limitait pas au dédoublement, mais traduisait autre chose. Les cordées de la réussite, les internats d'excellence, les formations à la laïcité, les petits déjeuners. Donc, on voit une litanie d'actions périphériques qui ne constituent pas une politique éducation prioritaire. Et plutôt que de respecter l'engagement qui avait été pris et qui aurait été très intéressant publiquement d'évaluer avec les acteurs l'ensemble des projets de réseau et la carte, en toute transparence, on assiste à une opération d'escamotage de l'éducation prioritaire pour finalement satisfaire d'autres objectifs, des politiques territoriales clientélistes, le glissement, c'est ce qui est visé, je ne sais pas ce qui se passera, le glissement des moyens des REP vers les établissements ruraux et l'enseignement catholique sous contrat, qui s'est précipité dans l'opération et qui déclare « Maintenant, nous faisons partie de l'éducation prioritaire, nous faisons partie des contrats locaux d'accompagnement. » Alors, quelles sont les perspectives? Je crois que plusieurs d'entre vous en ont parlé. En octobre 2018, la Cour des comptes a publié un rapport sur l'éducation prioritaire. Moi aussi, je les ai rencontrés. Ils ne sont pas des rigolos, hein. Et la Cour des comptes a notamment déclaré « La politique d'éducation prioritaire est la seule politique publique en France de lutte contre les inégalités. » La seule politique de lutte contre les inégalités en France. Donc il n'était pas du tout dans la posture d'escamoter l'éducation prioritaire, mais plutôt de reprendre le référentiel, de reprendre la géographie et d'approfondir la politique qui avait été engagée en 2013-2014. En 2019, nous avons donc procédé à une enquête auprès des acteurs. Alors, Anne est revenue tout à l'heure sur cette enquête. ce qu'on nous dit, ce qu'on nous a dit à travers cette enquête, ce que les acteurs de l'éducation prioritaire nous ont dit à travers cette enquête et à travers l'enquête suivante sur la formation qu'ont réalisé Marc Babet et Patrick Picard, c'est que, d'abord, auprès des acteurs de terrain, l'idée d'éducation prioritaire n'est plus remise en compte comme elle a été remise en compte fortement pendant des années. Et que, au contraire, la demande, c'est plus d'éducation prioritaire, donc mieux connaître les enjeux. Qu'ensuite, le principe, un certain nombre de principes sont partagés. Le principe d'éducabilité, qui a été rappelé tout à l'heure par notre collègue, le principe d'éducabilité est fortement mis en cause. L'éducabilité de tous les jeunes qui sont en éducation prioritaire. La nécessité, volonté de renforcer l'action pédagogique et la maîtrise des savoirs afin de conduire à la réussite l'ensemble des élèves. Et enfin, la construction de la continuité et de la cohérence des apprentissages tout au long de la scolarité. À partir de cette enquête, vous l'avez tracée dans les différentes tables rondes, des enjeux ont été ciblés et des leviers. Cinq enjeux me semblent émerger et me semblent très importants aujourd'hui. Le premier enjeu, c'est la priorité qui est donnée à une meilleure acquisition des savoirs au sein de la classe, en particulier du lire, écrire, parler, dans la perspective de l'ensemble des savoirs disciplinaires. La construction bienveillante et exigence d'une culture scolaire, et je reprends le terme de mes collègues de émancipatrice. Deuxième enjeu, la prise en compte de l'évolution des pratiques professionnelles enseignantes dans le contexte de cohérence entre les cycles, entre l'école et le collège, des articulations entre l'école et le collège, l'analyse et la prise en charge des difficultés d'apprentissage des élèves. Devenu une référence pour un certain nombre de répondants, pas pour tous, ce qui émerge au fil des années, et nous l'avons vu notamment à partir des réseaux Mission Réussite, c'est du travail collectif ou du collectif de travail, la notion de collectif professionnel. Il nous appartiendra, avec d'autres, à travailler ceci. C'est-à-dire que les collègues du premier et second degré ont des cultures professionnelles différentes d'origine et la formation initiale jusqu'à présent n'a pas réussi à traiter cette question, mais il ne s'agit pas de rentrer par une remise en cause des statuts, des cadres professionnels, mais par les pratiques, l'évolution des pratiques, le travail collectif en le professionnalisant davantage. Troisième enjeu, le resserrement des liens entre l'école et les familles. Ce qui passe par l'élucidation de ces liens. On a bien vu à travers l'enquête que le quartier, qui était dans les années 80, 90 encore, considéré comme un centre de ressources, est plutôt considéré comme un centre d'interrogation de problèmes. Et qu'il faut, c'était rappelé par les collègues qui sont intervenus, élucider sans doute ce rapport avec les familles, rendre beaucoup plus lisible le fonctionnement et les attentes de l'école, sans rien rabaisser au niveau des exigences, notamment en termes de rapport de confiance et de laïcité, mais également élaborer quelque chose à partir des expériences qui ont été faites tout à l'heure dans le réseau, des initiatives locales. Quatrième enjeu, la construction de relations claires entre le réseau et ses partenaires, dans lesquels l'école se voit reconnaître ses fonctions spécifiques, mais en même temps ne s'exonère pas de ses propres responsabilités. C'est une vieille histoire. En 1990, il y a eu un travail de construction des rapports entre l'école et les partenaires locaux, institutionnels. C'était compliqué. En 2005, à l'occasion du lancement de la politique de Borloo et les projets de réussite éducative, d'autres complications sont nées parce que l'éducation prioritaire, à l'époque, n'était pas du tout la priorité du ministre de l'Éducation, François Fillon. Et donc, il y a eu un décalage. Et c'est vrai que ce qu'ont souligné plusieurs intervenants, les réalités de transfert de responsabilités vers l'école, de l'école, vers les collectivités, vers les associations, pose problème. On le retrouve dans la question des cités éducatives. Cinquième enjeu, la question du pilotage à tous les niveaux, du choix des pilotes, de leur formation. Ce qui pose aussi la question qu'a soulevé Anne, mais d'autres aussi, les articulations entre les prescriptions nationales, inévitables, le cadre national d'action, mais en même temps la prise en compte d'un degré d'autonomie dans le faire par les équipes de terrain. Enfin, quels sont nos leviers? Je pense que le premier levier sur lequel on doit appuyer fort, c'est la question de la durée. Il n'est plus possible d'engager une action dans un réseau sans que la pérennité des orientations, des projets, des moyens engagés tout au long des 4 ou 5 ans du réseau ne soit garantie, et garantie nationalement. Il faut garantir cette durée, sinon il y a remise en cause de la crédibilité de l'action même engagée en tant que politique publique. La question de la formation doit être traitée en prenant en compte à la fois les besoins exprimés par les équipes de terrain et les apports renouvelés de la recherche. Et là, je rejoins ce qu'a dit Patrick Picard tout à l'heure, il faut professionnaliser davantage les formateurs. Ça, c'était un véritable enjeu. C'est un des chantiers, j'y reviendrai à la fin, que le CP se propose de travailler à la suite de l'enquête qui a été faite. Troisième enjeu, l'exercice professionnel en éducation prioritaire requiert d'en partager les valeurs et le souci du travail collectif, ce qui renvoie aux questions de nomination des personnels. Il faut le dire, ça nous est revenu dans l'enquête, mais c'est un des freins d'avoir dans un établissement, dans un réseau, dans une école, des collègues qui ne partagent pas les valeurs de l'éducation prioritaire ou qui refusent le travail collectif. Quatrième enjeu, le travail en collectif professionnel demande du temps de concertation. Ce temps de concertation, si c'est un temps de travail professionnel, il doit être pris sur le temps de service, dans les obligations de service, il doit bénéficier de moyens stabilisés en remplacement et d'un pilotage efficace et bienveillant. Cinquième levier, cette politique prioritaire doit être prioritaire dans tous les niveaux du fonctionnement de l'administration. Nommer en éducation prioritaire des personnels titulaires et formés, avoir un volet de remplacement, reconnaître les fonctions spécifiques, coordonnateurs, ceux qui font les enseignants référents, formateurs et plus, tous ces métiers qui ont surgi, qui ont été initiés par l'institution parce qu'ils correspondaient à des difficultés, à des lacunes, et qui doivent être reconnus. Il nous reste des questions en chantier. Nous l'avons évoqué à la fin de notre enquête, et je les rappellerai rapidement. Ces questions en chantier, elles vous sont proposées, elles nous sont proposées. On continuera de travailler dans les prochains mois sur ces questions. Les questions, je les cite, les dédoublements et la continuité pédagogique. L'approfondissement du référentiel, ça revient très souvent, et nous étions même interrogés sur la nécessité de construire un référentiel entre le collège et le lycée. La formation continue des équipes de réseau, donc on a commencé à l'aborder. Le pilotage à tous les niveaux, les liens entre l'école et les familles, et la question des cités éducatives. Récemment, j'ai été sollicité par l'Association des maires d'Île-de-France pour participer à un débat avec Sylvie Charrière, la responsable ministérielle, enfin, des cités.
Non, président. Qui n'est pas le site ministériel ni la coordination nationale.
Bien, et à cette occasion, les maires se sont alarmés auprès d'elle sur la disparition des REP au moment où les cités éducatives se développeraient. Et là, il y a une contradiction qui n'est pas levée et qui mériterait d'être retravaillée et sur laquelle nous allons retravailler parce que les cités éducatives reproduisent un certain nombre de côtés positifs, mais de côtés négatifs que nous avons déjà connus dans l'histoire. Deux derniers points à travailler, j'y reviendrai, mais la question du collectif professionnel, qu'est-ce que ça signifie? Sur quel objet travaille-t-il? Comment est-il reconnu? De quelle façon, si on veut qu'il soit efficace, la formation initiale considère que les enseignants du premier et second degré doivent être préparés comme acteurs d'un collectif professionnel. Vaste sujet d'étude. Enfin, je n'aime pas du tout le terme, mais la question de la gestion des ressources humaines, je dirais plutôt la façon dont l'institution prend en compte, prend soin des personnels en éducation prioritaire. Je termine, 40 ans après sa création, l'éducation prioritaire a laissé et laisse une empreinte dans le système éducatif. Comme il a été rappelé sur notre site, c'est un laboratoire. Laboratoire de projet, laboratoire interdegré, laboratoire de politique partenariale. Aujourd'hui, faut-il abandonner l'éducation prioritaire? Au profit de quoi? D'une libéralisation de l'école, du new management, etc. À l'heure où les inégalités sociales se creusent, on a plus que besoin d'une éducation prioritaire qui renoue avec les principes d'origine, avec le travail engagé dans le cadre de la refondation, pour donner des perspectives à la lutte contre les inégalités, à faire société ensemble. C'est notre horizon pour nous, à l'ECP, et c'est pourquoi je vous invite à participer à cette association. C'est la vôtre. Nous allons avoir une réunion entre nous pour définir notre projet de travail pour les mois prochains. Voilà, on arrive à la clôture de cette journée. Je remercie au nom de l'OSEP toutes celles et ceux qui se sont déplacés, celles et ceux qui ont passé du temps, donné du temps, de l'énergie, des idées, pour continuer à se projeter sur l'éducation prioritaire. C'est quelque chose d'important et nous nous reverrons bientôt. Merci à vous.